RMC, Intégral Sport, Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport en direct d'Ajaccio ce soir au terme de la deuxième étape du Tour de France. C'est donc un Belge quasiment inconnu qui est en jaune. Il se nomme Backlands, on va en parler dans un instant avec toute la Dream Team RMC. Mais vous le savez, l'actualité ce soir, ce sont aussi les braqueuses, les championnes d'Europe. Peut-être futures championnes d'Europe en tous les cas. Elles sont à un match de ce titre. On va tout de suite en parler avec Jean-Louis Tour, car c'est l'heure du journal des sports.
RMC Sport.
Jean-Louis, un match et elles seront sacrées championnes d'Europe. Les braqueuses sont tout proches de réussir le casse du siècle.
Et oui, forcément, il y aura de l'émotion. Vous l'entendez derrière, la Marseillaise chantée a cappella par le public d'Orchy. C'était lors de la demi-finale. On revivra peut-être la même chose tout à l'heure puisque vous suivrez les hymnes en direct. Coup d'envoi à 20h de ce France-Espagne. On retourne à Orchy retrouver François Giuseppi. François, la tension doit être en train de monter chez les joueuses.
Oui, même si on les voit encore à l'échauffement. Certaines qui rigolent sous le panier, comme à l'image à l'instant même, Emeline Ndonga avec Andy Miyem et Diandra Chachuang. Bref, des filles qui sont concentrées, qui sont arrivées à la salle il y a maintenant quasiment déjà 40 minutes avec en tête les plus grandes, Emeline Ndong, les intérieurs comme Isabelle Yacoubou, et la dernière à sortir quasiment, c'était Céline Dumère qui, le paradoxe, elle souriait contrairement à ses coéquipières, le casque vissé sur la tête et déjà très concentrée dans une finale qui est maintenant prévue dans 50 minutes. Peu d'ambiance pour l'instant puisque tout le monde se restaure et prend surtout la fraîcheur extérieure, car à l'intérieur la climatisation absente fait que c'est considérablement insupportable pour respirer.
D'accord, très bien. Bon, en tout cas les supporters sont autour de la salle et ils seront là pour donner de la voix. C'est ce qu'ils ont expliqué tout à l'heure à Jean Baumel.
On a à fond derrière elle. Tout le monde est là pour mettre l'ambiance.
Eh oui, on est motivés là. On vient de supporter la France. C'est les meilleurs.
On a fait 450 km pour venir les voir. Ça fait 4 jours qu'on est là. On est à fond derrière elle et puis bah, on espère voilà, continuer à les supporter. Puis qu'au bout, on ait la victoire finale.
Je pense que ça va être parfait. Après les JO, là, pour nous faire rêver, il n'y a pas mieux. Ça va être à fond. On va chanter les sardines. On va tout chanter.
Voilà, on peut pas y couper hein, aux sardines, visiblement, avec l'équipe de France féminine de basket. Rendez-vous donc pour la prise d'antenne à 19h45, le match à 20h en intégralité sur RMC avec François Giuseppi, Rodolphe Massé et les réactions jusqu'à 22h30. Retour au calme sur le Tour de France après l'arrivée mouvementée hier. Aujourd'hui à Ajaccio, victoire du Belge Yann Beklands. Il s'extrait dans le final pour l'emporter avec une seconde d'avance sur Peter Sagan, en costaud selon son directeur sportif chez Radio Shack, Alain Galopin.
Il n'avait pas vu au début qu'il avait fait un trou quoi, et on l'a poussé quoi, mais ce qu'il a fait, il faut être très fort, parce que Backland c'est un type très très fort, très très fort, mais très dur à coacher aussi hein. Très très dur à coacher. Je dis pas que c'est pas un chien fou, c'est un type très sympa, très gentil, il est fort, il est très fort, il a pas vraiment conscience de ses capacités quoi.
Alain Galopin qui était en direct tout à l'heure sur RMC dans l'intégral tour que vous retrouvez avec Christophe Cessieux juste après ce journal jusqu'à 20h. En Formule 1, victoire confirmée pour Nico Rosberg à Silverstone. Vous l'avez suivi également cet après-midi sur RMC. Elle était en suspens à cause d'un excès de vitesse sous drapeau jaune. Finalement, il n'a été que réprimandé. L'Allemand devance Weber et Alonso. Vettel a abandonné. Problème de boîte de vitesse. Au général, il ne compte plus que 21 points d'avance sur Fernando Alonso. Une course à nouveau rythmée par les abandons à cause des pneumatiques. Enfin, en football, on peut être double champion d'Europe, champion du monde et toujours avoir des étoiles plein les yeux. C'est le cas des Espagnols. Ils affrontent ce soir le Brésil en finale de la Coupe des Confédérations au Maracanã, à Rio, à minuit, heure française. Salut Fred Hermel.
Hola chicos.
Vous êtes le correspondant RMC Sport à Madrid pour La Roja. C'est un rêve d'affronter les Brésiliens.
Ah ben ils sont venus à cette Coupe des Confédérations avec ce match en tête et ils l'ont obtenu. Hein. Les Espagnols vont donc affronter le Brésil dans une finale où ils sont logiquement favoris au vu de leur palmarès de ces dernières années, mais où ils arrivent quand même très fatigués après la rassante demi-finale remportée jeudi soir face à l'Italie au tir au but. Mais la motivation de La Roja est au sommet. Hein. Il n'y a pas de plus grand challenge que de battre le Brésil à Maracanã. Reconnaissait hier dans ce sens Andrés Iniesta, peut-être le meilleur joueur ibérique de la compétition. Nous voulons clôturer par une victoire le cycle de Vienne. Ajouté pour sa part son coéquipier Xavi Hernandez. Et oui, hein, il y a 5 ans, presque jour pour jour, Fernando Torres marquait le but victorieux de la finale de l'Euro face à l'Allemagne pour le premier titre de cette fantastique génération de joueurs qui, depuis, on le sait, ont remporté un autre Euro et une Coupe du Monde. Ne manque plus que la Coupe des Confédérations. un peu plus qu'une cerise sur le gâteau, hein. Maracana oblige.
Et oui, merci Fred Hermel. En tout cas, on en reparle ce soir dans l'after avec Jean-François Pérez. Horaire exceptionnel de 22h30 à minuit. Et dans le match pour la troisième place dans cette Coupe des Confédérations, on est au début de la seconde période. L'Italie mène 1-0 contre l'Uruguay. But d'Astori. 19h11 sur RMC. On retourne à Ajaccio pour l'intégrale Tour de France avec Christophe Cessieux.
Effectivement, Jean-Louis, nous sommes toujours là. Le soleil continue de briller sur Ajaccio et sur les îles sanguinaires qui sont juste à côté de nous, paysage de carte postale pour cette deuxième étape du Tour de France, et ça se poursuivra demain pour la dernière étape corse entre Ajaccio et Calvi. En attendant, nous sommes là dans notre petit camion avec Cyril Guimard et Luc Leblanc qui vont revenir sur les principaux faits du jour. Tiens, on va se remettre en mémoire ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était donc la deuxième étape du Tour entre Bastia et Ajaccio.
Allez, 4 km de l'arrivée avec un chien qui traverse entre l'échappée et le peloton. Attention, le peloton qui est en train d'arriver sur ce chien qui va peut-être provoquer un drame. Ça s'est passé, c'est passé de justesse à quelques centimètres pour ce petit ce petit Jack Russell de couleur blanche qui a failli voler la vedette au coureur.
Non, le sanglier.
Oh là là, vive le Tour.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Encore 1000 mètres et McLean y croit, il a raison d'y croire.
Et il s'est inspiré de son glorieux équipier Fabian Cancellara, le Suisse absent des routes du Tour de France. Jan Bakelands, le Belge, il n'en croit pas ses yeux. Il franchit la ligne d'arrivée avec une seconde d'avance seulement.
Voilà, Backlands, un inconnu belge de 27 ans, coureur de la formation RadioShack, qui s'impose donc aujourd'hui et qui fait coup double, un peu à l'image de ce qu'avait fait Marcel Kittel hier, vainqueur d'étape et maillot jaune. Backlands qui nous explique pourquoi il est allé chercher cette victoire d'étape. Comment a-t-il fait pour y croire ? On l'écoute.
On était à 6 là et ça n'arrivait pas assez vite à mon avis. D'abord, je croyais qu'il tenait un peu de réserve pour le sprint final, mais quand on roulait comme ça, on n'allait pas arriver. Et moi, je croyais qu'on va y arriver quand on fait tout ce qu'on a. Et la dernière fois, quand je suis parti, je n'allais pas pour attaquer, j'allais pour faire un dernier relais et relancer les choses. Et j'ai regardé, j'ai vu 10 mètres et j'ai donné tous pendant 500 mètres et j'ai vu qu'il ne revient pas et personne ne vient. Peut-être ils peuvent plus. Et il a été repris par le peloton. Et moi, j'ai regardé de nouveau à 500 mètres. Et j'ai dit, encore 100 mètres, je peux gagner ici. Et j'ai gagné. Peut-être pas avec beaucoup, mais j'ai gagné.
Et oui, c'est l'essentiel, c'est de gagner, même avec une petite seconde, même avec quelques centimètres d'écart. Et Backlands, Cyril, aujourd'hui, a cassé la baraque, a forcé le coffre-fort, un peu à l'image de Kittel, je le disais. Mais c'est un sacré coureur, un beau coursier qui a de la puissance. Hein.
Oui, c'est un beau coureur qui a un petit peu déçu, il n'a pas confirmé véritablement les promesses qu'il faisait lorsqu'il était dans les catégories juniors ou lorsqu'il était dans la catégorie espoir. N'oublions pas quand même qu'il a gagné la plus grande course pour les espoirs, qui est le Tour de l'Avenir plus une étape. Ensuite, eh bien, il s'est non pas perdu puisqu'il est encore là, mais il s'est surtout mis au service de ses leaders et il est passé un petit peu dans l'anonymat. Et aujourd'hui, alors que il a eu quand même des gros soucis au début de l'année puisqu'il a été opéré d'un genou au mois de mars, eh bien il retrouve, ou tout du moins il arrive sur le Tour de France avec peut-être un peu plus de fraîcheur mentale. Il ne s'est pas posé de questions et c'est, je crois, grâce à cela, et comme il le dit, je n'ai pas attaqué. On a vu qu'il n'a pas attaqué, il essayait tout simplement de prendre...
Il a fait un relais un peu poussé, quoi.
Pour relancer l'allure, parce que tout le monde commençait un petit peu à en garder, alors qu'on était encore véritablement trop loin de l'arrivée pour le faire. Il s'est retrouvé quelques mètres, c'est la possibilité pour lui de démarrer une deuxième carrière et ça sera été sur le sol de Corse.
Ouais, évidemment, Lucho, quand on décroche une victoire d'étape sur le Tour de France et qu'on porte le maillot jaune, vous changez tout de suite de statut, même auprès du peloton évidemment, mais auprès de de tout le monde, auprès du grand public.
On passe du statut d'équipier pratiquement au statut de leader, pas tout à fait, mais bon, c'est vrai, il y a peut-être un petit peu plus de respect dans le peloton vis-à-vis de ce coureur. Au moment où où il voudra se placer, eh bien, les coureurs feront un petit peu plus attention à lui, que ce soit maintenant ou dans l'avenir. Donc c'est vrai qu'il a marqué des points aujourd'hui avec ce maillot de leader, ce maillot jaune et puis cette victoire d'étape.
Donc victoire Backlands pour ce jeune Belge qui décroche également le maillot jaune. Alors une étape qui a été marquée par plusieurs attaques. C'est vrai qu'on aurait pu penser, Cyril, que l'étape serait tranquille, même si à regarder le profil, on se disait qu'il y aurait peut-être des choses, qu'il se passerait peut-être des choses. Et il s'est passé des choses avec notamment une attaque de Thomas Vauclair, une autre de Pierre Roland qui ce soir porte le maillot à poids rouge de meilleur grimpeur. Et surtout dans la dernière difficulté de la journée, une attaque de Chris Froome, le principal favori de ce Tour de France. Alors qu'a-t-il voulu faire? Est-ce qu'il voulait aller chercher une victoire d'étape ou a-t-il voulu simplement lancer un message aux autres, leur dire écoutez les gars, c'est moi le favori, vous allez me voir et vous allez voir que mes fesses pendant 3 semaines.
Alors la victoire d'étape, je ne le pense pas, parce que dans le bas de la descente il restait quand même 10 km, et 10 km tout seul quand on s'appelle Froome, même si on s'appelle Froome, on vous laisse quand même pas partir. Contador avait encore quelques équipiers et d'autres favoris également. On a vu Cadel Evans qui était également relativement à l'aise dans cette ascension. Non, je pense que ça doit faire aussi partie de son tempérament, et puis il a peut-être envie de se rassurer et peut-être aussi besoin de montrer qu'il était sans doute le taulier. Mmh. Et là je crois qu'il a quand même marqué des points, même si ses adversaires diront que ça n'avait pas de sens. Moi je crois qu'il y a un autre sens derrière cette attaque, c'est qu'il savait que la descente était relativement rapide, technique, avec des virages pas très serrés mais qui se prenaient à grande vitesse. Le moindre accrochage derrière ou la moindre cassure pouvait condamner quelques favoris, et là dans le bas de la descente, se retrouvant avec 7 ou 8 coureurs, il aurait pu creuser des écarts. Ouais. Voilà toutes les suppositions que l'on peut faire. Une chose est certaine, il a quand même marqué les esprits. La preuve, on en parle.
Eh oui, qu'est-ce que tu supposes alors, Lucho? Qu'est-ce qu'il a voulu faire là, la Chris Froome? Montrer qu'il était le cador? Il a voulu jouer des biscottos dans cette histoire?
Je pense qu'il a voulu faire voir à ses adversaires qu'il était bien là et bien présent, et qu'il va falloir compter sur lui dans les prochaines étapes. Enfin bon, à partir des Pyrénées, les Alpes, et puis bref, c'est sûr.
T'as été impressionné par cette sortie de Chris Froome? Est-ce que si tu étais dans la peau de Contador aujourd'hui, tu t'inquiéterais?
Il
est vraiment super costaud.
J'ai été impressionné de son attaque parce que c'était une attaque très vive et il a fait un écart de suite. Et quand on regarde la réaction de Cadel Evans derrière, il a mis au moins 10 secondes avant de réagir. Il a vu passer à droite, mais le temps de se lever et d'essayer de revenir
sur giclette,
Froome.
Froome,
il a une très très belle giclette, et donc ça promet dans les prochaines étapes, et surtout dans les Pyrénées, dans les Alpes, parce que à partir du moment où Froome il a la giclette, contrairement à Viggis l'année dernière, il va y avoir Quintana, Joaquim Rodriguez, il va y avoir plusieurs grimpeurs. Là, on va vraiment voir des batailles extraordinaires dans les Alpes et dans les Pyrénées.
Tiens, on va écouter tout de suite Nicolas Portal, qui est le directeur sportif de la formation Sky et donc le directeur sportif de Chris Froome. Est-ce que c'était une attaque aujourd'hui lancée par Chris Froome?
C'est pas vraiment une attaque, vous savez, c'est dans le final, quand on se sent bien, enfin, ça m'est jamais arrivé comme ça, mais bon, ça m'est arrivé dans d'autres courses, à d'autres niveaux. Voilà, c'est sûr, voilà, il se sent bien, ça lui a pas coûté énormément d'efforts pour lui de faire ça, il s'est isolé, il s'est mis hors de danger. Je pense que c'est parfaitement bien joué tactiquement.
C'est parfaitement bien joué tactiquement. Alors, est-ce que les adversaires de Froome doivent s'inquiéter, Cyril? Ils tremblent aujourd'hui sur leur gond, les Contador, Evans, Andy Schleck et autres?
Alors, n'exagérons rien. C'est une côte à fort pourcentage et Froome aime les pourcentages élevés, puisqu'on avait des passages à plus de 12%. Ça n'était qu'un seul kilomètre. Donc, ne tirons pas des conclusions hâtives sur ce qui peut se passer dans des cols de 20 kilomètres. Une chose est certaine, il a marqué son territoire. Maintenant, le Tour de France, c'est encore 3 semaines. Mmh. Pour l'instant, j'ai envie de dire...
Est-ce qu'il est encore plus favori ce soir, après ce qu'il a montré aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu le mettrais vraiment grandissime favori de ce Tour, Cyril?
Alors, n'oublions pas que c'est lui qui disait, moi, je ne veux pas être dans la position du super favori.
Oui, bien sûr, mais tout le monde dit ça. Personne n'a jamais envie d'être favori. Hein. Donc, le rôle d'underdogs, d'outsiders,
c'est toujours... Conclusion, il ne faut jamais croire ce que les coureurs disent ou leur directeur sportif. Je pense qu'il avait besoin de montrer que c'était lui le rond-point, le sens giratoire de la course. Il l'a montré d'une façon très précise, en prenant une cinquantaine de mètres. Et ça veut dire aussi qu'il a besoin d'être reconnu par le peloton, parce que jusqu'à maintenant, il était reconnu au travers de courses, on va dire, secondaires, entre guillemets, et c'était Viggins.
Secondaire, quand même, t'as le Tour d'Espagne.
Oui, mais deuxième. L'homme l'homme qui était le point central de l'équipe, c'était Biggins. Il n'est pas là. Et donc, pour le grand public, pour tout le monde, pour les suiveurs, pour les journalistes, il avait besoin de dire à un moment, attendez, stop, ouais. Les gars, moi je suis là, j'existe aussi.
Ça veut dire qu'il va faire un grand tour, qu'on va le voir partout dans les attaques.
Pour le moment, a priori, par rapport à ce qu'on a pu voir aujourd'hui, oui. Ouais. Oui, là c'est vrai que c'est le grand favori. Après, tu sais, le tour c'est long. Hein. Là, c'était que la deuxième étape aujourd'hui.
Ouais. Donc, voilà.
Mais bon, la surprise quand même de la
Tour de Corse.
La surprise de la journée, c'est quand même de voir. Enfin bon, depuis le début de saison, on l'a jamais vu. Et à chaque fois qu'il y avait un coup de pétard, il était jamais là. C'est Schleck.
Ouais. Oui, il était là. Ah
oui, ouais, non, oui, il était là. Il arrive dans le groupe de tête dans le groupe.
On en parlera. On fera un débat sur Andy Schleck, évidemment, qui est la grande certitude de ce Tour de France. On va attendre un petit peu.
Oui, mais si tu veux, c'était une étape quand même assez dangereuse aujourd'hui, avec un final très sinueux.
Mais c'est peut-être pour ça qu'il était.
Une montée quand même très difficile à plus de 9%, à 13 km de l'arrivée, ça frottait. Tu sais bien que Andy Schleck, il aime pas frotter. Il est quand même là.
Ouais. Il est là. Tiens, Bruno nous appelle au 32-16. Il voulait nous donner son avis sur Chris Froome et Contador et peut-être sur Andy Schleck. Bonsoir, Bruno.
Salut à tous. Salut, Dorine. Salut, Lucho.
Salut.
Et ben moi, je rejoins un petit peu et même fortement ce qu'a dit le Dorine, monsieur Guimard.
Merci.
Moi, je crois que Froome a voulu marquer son trajectoire et se rassurer. Et moi, je parie quand même qu'il n'est pas tranquille. Et je parierais plus sur une victoire de Contador dans le Tour que sur une victoire de Froome. Je m'explique. Froome a été bon l'année dernière. Il était second de l'équipe. Il n'était pas leader. Là, c'est la première fois qu'il est leader d'une équipe sur un grand tour de 3 semaines. Et je le sens pas tranquille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, justement, il a voulu, ce qu'a dit M. Guimard, il a voulu marquer son territoire, dire je suis là, un petit peu comme Armstrong faisait dans les débuts de Tour, où il endossait le maillot jaune dès le début. Et lui, il essaye de faire ça. Alors, ça m'étonnerait pas qu'il y ait de nouvelles attaques de Froome dans les toutes premières étapes de montagne pour marquer son territoire. Je sais pas, mais voilà, moi, je vois bien Froome attaquer, mais pas gagner le Tour.
Attaquer et se brûler les ailes. Merci Bruno pour cette
interview. Je voudrais dire bonjour, ouais. À Lucho.
Ah bah oui, il est là.
Oui, bonjour, je suis là.
Non, bah Lucho, tu te rappelles de moi peut-être. Je t'ai amené des fromages de chèvre l'année dernière à Nonnet avec du Saint-Jean.
Alors si vous lui avez amené des cadeaux à bouffer, là, vous êtes sûrement son meilleur ami.
Alors je te promets que si je vais à l'Alpuez et j'arrive à te choper, je t'amène des fromages de chèvre et le Saint-Joseph à toute l'équipe des RMC à l'Alpuez.
Ah bah c'est gentil, merci.
Amener du pain.
Avec plaisir. Aussi. Puis un petit coup de pied.
Oui, non, mais je pense au pain. Je sais qu'il y a toujours le fromage, mais jamais le pain. Je penserai au pain d'Hervèche. T'inquiète pas.
Génial. Alors rendez-vous là-bas.
Merci Bruno, en tous les cas. On t'attend à l'Alpe d'Huez. Donc pour un petit fromage de chèvre et un petit coup de blanc, hein. On est d'accord. Très bien, on va passer à notre deuxième débat dans quelques instants. On va revenir sur faire un premier bilan de ce Tour de France en Corse. C'est vrai que c'est une réussite en tous les cas au point de vue image. Il y a quelques petits ratés dans l'organisation. Certains de nos confrères ont failli louper l'arrivée aujourd'hui. Nous aussi, on a été bloqués.
Les camions rouges ?
Non, mais pas seulement les camions rouges. Les camions rouges. Non,
il y a les voitures rouges.
Il y a des menaces pour l'étape de demain. On va en parler dans un instant. Pierre-Yves Leroux qui va nous parler de ces menaces sur le Tour, puisqu'un groupe autonomiste menace tout simplement d'empêcher le départ de la troisième étape. On en parle dans un instant, tout de suite on joue sur RMC.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Alors j'ai pas le jeu exactement, donc on va essayer de le retrouver dans quelques instants. Je n'ai pas la question, donc ça va être compliqué. On va le faire dans quelques instants. On l'a tout de suite. Alors pour gagner, non, comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes du soleil, je l'ai pas du tout. Donc on va revenir dans quelques instants pour le jeu. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport qui se poursuit, vous le savez, dans un petit quart d'heure, 20 minutes très exactement, vous aurez rendez-vous avec François Giuseppi pour la finale de l'Eurobasket féminin, les Braqueuses qui sont à un match du titre de championne d'Europe. Grande soirée sur RMC. En attendant, ah oui, la musique est là, évidemment, la musique est bien présente ce soir. Alors, chi pour cette finale. En attendant, nous revenons au Tour de France et à notre jeu, car cette fois, on a la question.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Ben oui, comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Il y en a bien besoin ce soir de paires de lunettes. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Qui est le premier Français de l'étape du jour? Si vous pensez que la bonne réponse est Julien Simon, vous envoyez A par SMS au 7-32-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est Gilles Simon, vous envoyez B par SMS au 7-32-16. Un petit indice. comprenne qui pourra. Hein. Mais bon, si vous suivez l'actualité sportive, vous devriez comprendre. Je suis sûr que Lozio a compris. Très bien. Notre deuxième débat.
C'était très bien.
Ah oui, c'est vrai qu'il a la même voix que... Non, c'est plutôt Bourvil, toi d'ailleurs, que De Funès. Alors, le Tour de France en Corse pour la première fois de son histoire, avec de magnifiques paysages. On est encore ici au large.
Je regrette une chose en Corse.
Ah, tu vas nous en parler dans un instant. Mais c'est vrai que les paysages montrés à la télévision, que les suiveurs ont pu voir, sont fantastiques. C'est vrai que c'est sans doute l'une des plus belles îles au monde et on en a la confirmation. On a aussi des foules, on l'a vu tout au long de la journée avec Georges Quirino qui nous le disait depuis la moto, des foules qui sont là, qui sont présentes, qui encouragent le Tour de France. Mais il y a aussi quelques petits couacs. On a vu hier notamment cette arrivée un peu mouvementée. Enfin, là, la Corse n'y est pour rien.
C'est pas la première fois.
Non, mais c'est les débuts d'un truc. Et puis aujourd'hui, quand même, bon, il fallait venir ici jusqu'au bout de la route des Sanguinaires. Et pour venir ici, car il n'y a pas beaucoup de places de parking, on a emmené la presse, les invités, tous les gens de l'organisation par bateau. Et il faut bien le dire, les bateaux n'étaient pas très nombreux, ce qui fait que nous, on a attendu quelque peu, on a un peu loupé l'émission des paris avec Cyril Guimard qui était sur le bateau, donc il n'a pas pu faire son émission. Et puis alors, certains de nos confrères qui n'avaient pas été très prévoyants sont arrivés 10 minutes avant l'arrivée. Et je peux vous dire que sur Twitter, ça a vraiment râlé. Et je pense que certains vont entendre parler du pays. Et puis, il y a aussi ces menaces, l'attente depuis quelques jours et qui semblent un petit peu se confirmer. Pierre-Yves Leroux est à nos côtés. Salut Pierre-Yves.
Oui, Christophe.
Menace d'un mouvement autonomiste, indépendantiste qui aimerait faire parler de lui demain, qui a déjà fait parler de lui d'ailleurs hier, je crois. Hein.
En fait, la situation est assez claire, assez précise. Il y a 4 militants corses qui ont été arrêtés et placés en garde à vue hier pour avoir tracé des graffitis sur la route de l'étape d'aujourd'hui entre Bastia et Ajaccio. Dans le col de Vizzavon, notamment, on pouvait lire FLNC, donc Front de Libération Nationale de la Corse, et puis Liberté pour les Patriotes également. Deux de ces hommes ont déjà été libérés, mais le Parti Nationaliste Corsica Libera, Corse Libre, demande la libération immédiate des deux autres militants. Dans un communiqué qui a été co-signé par une association de soutien aux prisonniers politiques corses incarcérés sur le continent, Corsica Libera explique que si les deux militants ne sont pas libérés dans la journée, le Tour de France ne passera pas lundi, donc c'est une menace très claire. Pour mémoire, on peut rappeler qu'il y a des inscriptions géantes « Corsica is not France » et « French go home », la Corse n'est pas française et français, rentrez chez vous, avait été tracée samedi sur la jetée du port de Bastia. Elles avaient rapidement été recouvertes de peinture par des employés municipaux. Alors, du côté de l'organisation, on ne souhaitait pas communiquer ce soir par rapport à ces menaces, mais il faut rappeler quand même qu'au moment où l'Assemblée de Corse avait voté pour la venue du Tour de France sur l'île de Beauté, tous les mouvements nationalistes avaient complètement adhéré au projet. Donc on peut dire que la sérénité reste plutôt de mise ce soir sur la route du Tour.
Très bien, mais en tous les cas, les menaces sont là. On verra demain ce qu'il en est et on espère évidemment que tout va pouvoir s'arranger. Mais c'est vrai que Dominique Bozzi, qui est un peu le grand ordonnateur du Tour en Corse, nous avait dit que tout allait bien et que tout avait été aplani. Mais de temps en temps, il y a quand même quelques petites minorités qui râlent et qui ne.
On peut aussi imaginer que ces gardes à vue se terminent assez rapidement.
Un peu plus tôt, ce serait pas plus mal. Alors, je sais pas si c'est dû à l'organisation en Corse, mais il paraît. Alors, moi, j'ai reçu quelques mails assez incendiaires de certains de nos auditeurs qui n'ont pas compris ce qui s'est passé sur France Télé aujourd'hui à l'arrivée. Il paraît qu'ils n'ont pas vu Ben Becklands remporter l'étape, mais plutôt un Espagnol. Bon, ça peut arriver, hein, Cyril, de se tromper. Ça t'est arrivé, toi. Même au druide, ça arrive de louper le vainqueur de l'étape.
Oui, surtout lorsqu'on ne fait pas attention. Mais oui, non, ça arrive. C'est ça, c'est des erreurs qui arrivent à tous ceux qui font ce type de métier. Aux autres, non.
Ouais. Non, toi c'était...
Non, je veux dire, ceux qui font pas ce métier-là ne se trompent jamais.
Oui, évidemment. En tous les cas, c'est Irizar qui avait été nommé vainqueur. Bon, il faut raconter aussi, il faut expliquer que l'équipe de France Télévisions a dû se reconstituer en l'absence de Laurent Jalabert et qu'il faut trouver des automatismes. Bref, ça nous a fait plus marrer qu'autre chose. Je pense que ça n'a pas fait vraiment
c'est
marrer.
C'est sur RMC qu'il faut regarder le Tour
mais
de France.
Mais évidemment, il faut
bien sûr, c'est sur RMC
et
qu'il
nous
faut regarder
écouter,
le Tour de
c'est
France.
C'est comme ça que ça se passe, mais tout le monde le sait ou presque. Hein, il nous en manque encore quelques-uns, mais on va aller les chercher. Lucho, le Tour en Corse, c'est une réussite pour toi. Tout va bien jusqu'à présent. Tu as vu des belles choses.
Tout va bien, mais je regrette une chose. dit. C'est que j'ai pas mangé un sanglier à la broche. Bah ouais. Alors, il reste encore une étape. Comme vous savez, je le dis tout simplement en l'espace de 10 secondes. Hein. J'ai la voiture RMC. Je pars 3/4 d'heure avant les coureurs, donc sur l'étape du jour. Je fais toute l'étape en voiture. Alors, si vous voyez une voiture RMC, un break RMC, eh ben c'est Lucho qui est dans sa bagnole et elle aimerait bien goûter au saucisson corse,
ouais,
ou alors une tranche de sanglier corse.
T'avais dit 10 secondes. Ah ben c'est gros une tranche de sanglier.
Regardez bien les Corses hein, sur le banc
Cyril,
de la route. Lucho avec la voiture RMC.
Sérieux, c'est une réussite pour toi ce Tour de France en Corse, les paysages montrés au monde entier, l'accueil du public corse et puis les foules qui sont là présents pour encourager les coureurs.
Oui, pour l'instant on a tout eu. On a eu des histoires de bus, des histoires de cars. Mais indépendamment de ça, oui, c'est pas lié aux Corses et au territoire corse. Non, je pense que jusqu'à maintenant, on a fait les deux tiers du parcours. On peut dire que le Tour de France, ici, c'est une réussite. On attendra, bien sûr, demain soir. Vous savez, j'ai toujours peur quand on commence à faire ou à dire des choses ou à faire des résumés lorsque tout n'est pas terminé. Vous savez, nous avons perdu avec Laurent Fignon un tour pour 8 secondes. Personne ne l'aurait dit juste avant. Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Ah oui. Donc, attendons d'être sur le bateau pour dire que les choses se sont bien passées en Corse. Mais pour l'instant, tout s'est bien passé.
On fera le bilan demain soir. Jean-Claude, voilà. Nous appelle des Alpes-Maritimes. Le tour va passer dans les Alpes-Maritimes après-demain, puisque demain soir, nous prenons le bateau à Île-Rose, direction Nice. Jean-Claude nous appelle les Alpes-Maritimes. Salut Jean-Claude.
Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le tour en Corse, c'est une réussite, Jean-Claude ?
Oui, ben, les paysages. Bon, moi, je suis originaire de Corse par ma mère, donc c'est vrai que ça tenait à tous les Corses beaucoup à cœur que le tour passe sur l'île. On a eu de belles étapes. Moi, bon, j'étais un petit peu déçu de l'incident hier, comme tout le monde. Hein. Bon, ça arrive. L'année dernière, on avait eu un tour nerveux pour un début de tour nerveux pour d'autres causes. Et là, c'est vrai que les chutes qui ont été causées hier à cause de cet incident, c'est un peu dommageable pour le début du tour. Aujourd'hui, en fin d'étape, on a encore vu des gens qui ont des comportements pas disciplinés au bord des routes. Mais bon, ça, on est habitué, mais on aura dû le souligner assez souvent. Et sinon, bon, les paysages, les routes sont vraiment sublimes, et ça a donné lieu à de belles bagarres. Et c'est quand même bizarre de voir des gars qui sont déjà à presque 10 minutes au soir de la deuxième étape, quoi.
Évidemment. Jean-Claude, vous êtes inquiet justement à cause des menaces de ce groupe indépendantiste qui menace donc d'empêcher le déroulé de l'étape normalement demain. Est-ce que ça vous inquiète ?
J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je suis pas particulièrement inquiet. Et je pense que par certains côtés, le tour est bénéfique pour la Corse, parce que moi-même, je suis corse, et c'est vrai que le tourisme, c'est quand même une manne providentielle pour cette île. C'est sûr qu'il faut que ça soit maîtrisé, qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait, mais c'est quand même une ressource importante de l'île, et je pense que menacer une icône comme le Tour de France, c'est peut-être pas très bien.
D'accord, très bien. On verra en tout cas demain ce qui se passe. Merci Jean-Claude pour cet avis. Donc un Corse qui vit dans les Alpes-Maritimes. Il y en a beaucoup qui sont sur le continent et qui sont ravis évidemment de voir les images de cette île de beauté qui mérite vraiment amplement son nom. On en a eu la preuve aujourd'hui, on en aura encore la preuve demain avec cette magnifique étape entre Ajaccio et Calvi par la côte occidentale. On va s'en mettre plein les yeux demain et on va en parler dans un instant de cette étape de demain justement avec vous. Car certains leader, eh bien, s'inquiète pour l'étape de demain. Elle est assez casse-pâte. Cyril va nous en parler dans un instant. Ont-ils raison de s'inquiéter ? On en parle dans un instant. On va également revenir sur les paris du jour. C'est l'intégrale sport. Vous savez ce soir qu'il y a un petit événement. Ça se passe dans le nord de la France, avec un Corse justement, au commentaire. François Giuseppe et son grand orchestre.
Ah oui, là, il est grand.
Ah ouais, ça, c'est magique. Tu l'as dans ta voiture, ce CD, hein ?
Je préfère te parler le profil de l'étape, si tu préfères, si tu veux bien.
Ah oui. Ah oui, parce que là c'est le régional de l'étape.
Ah bah Ajaccio Calvi, je connais un petit peu, si tu veux. Au moins pour les trois quarts du parcours. Nous sommes à Orchi pour cette finale de l'Eurobasket féminin France-Espagne. Le speaker est en train de chauffer un petit peu plus la salle, comme s'il en avait besoin, parce qu'il n'y a pas de clim ici. Et on l'a dit tout à l'heure dans le journal des sports, mais c'est aussi un paramètre. Et les photos sont assez claires, c'est-à-dire qu'il y a des drapeaux bleu-blanc-rouge dans l'intégralité des tribunes de ce PVL Arena qui contient 5000 personnes. Mais si les spectateurs ont un drapeau bleu-blanc-rouge dans la main droite, ils ont aussi un espèce d'éventail dans la main gauche, parce que c'est irrespirable. Les Françaises sont arrivées à la salle il y a maintenant une heure et sont sur le parquet depuis une vingtaine de minutes. les Françaises qui regardent actuellement les jolies pom-pom girls. Elles vont attendre qu'elles sortent de ce parquet pour reprendre leur échauffement et leur séance de shooting sous l'impulsion de Caps. Céline Dumère, coup d'envoi dans 21 minutes.
Très bien François, tu as ton drapeau corse quand même dans la salle j'espère.
Non,
tu l'as pas. Non.
Mais je peux te parler de l'étape si tu veux.
On en parle tout à l'heure. Merci François, on se retrouve dans 10 minutes pour ce grand match donc entre la France et l'Espagne. Finale de l'Eurobasket féminin, ce sera à partir de 20h. Nous on se retrouve dans une petite minute pour justement évoquer la belle étape de demain qui nous attend.
Eh oui, on est motivé là, on vient de supporter la France, c'est les meilleurs.
RMC, Intégral Sport, Christophe Cessieux.
Et oui, les braqueuses seront sur le parquet dans quelques minutes pour la finale de l'Eurobasket féminin que vous allez pouvoir suivre avec François Giuseppi et Rodolphe Massé dans quelques instants sur l'antenne d'RMC. En attendant, nous sommes toujours à Ajaccio, lieu d'arrivée de la deuxième étape du Tour de France. Et puis demain, la dernière étape sur le territoire corse entre Ajaccio et Calvi. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, on va parier sur RMC.
Les paris RMC Tour de France.
Et qui dit Paris dit Benji. Il est avec nous comme tous les soirs. Salut Benji.
Salut messieurs.
Salut.
Alors,
Benji.
Hier, notre ami Lucho avait réussi à dénicher un vainqueur d'étape. Bon, certes, il a eu pas mal de chance, mais ouais, bon, ouais, il est là. Au bout du compte, il est leader, largement leader au classement général. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'était un peu moins bon. Hein. Personne n'a réussi à trouver la victoire de Becklands. Je sais pas combien il était coté Becklands, mais celui qui a trouvé la victoire a dû faire le jackpot. Hein.
Oui, il était à 200. Personne ne l'a vu venir dans la Dream Team, mais Lucho il a encore marqué des points puisqu'il avec Peter Sagan il termine deuxième. Christophe et Bourgui, il va falloir vous réveiller, vous êtes les seuls 100 points puisque
enfin moi j'avais donné Chavanel, il était quand même en tête à
et vous avez quand même eu du goût parce que j'aurais pu gagner à 10 mètres près.
Ouais ben moi à 1 km près j'aurais pu gagner si tu vas comme ça hein. Bon bref, donc Lucho continue son cavalier seul en tête.
Oui, Lucho est tranquille maillot vert, tranquille maillot jaune, pas encore de maillot à poids et maillot blanc toujours sur les épaules de Georges.
Oui, mais ça ne bougera pas, ça ne bougera pas. Cyril, oui, bah, tu n'avais pas donné Becklands, hein, c'est quand même incroyable. Donc, on t'appelle le druide, mais tu ne mérites plus ton surnom sur ce coup-là.
Oui, mais Becklands, vous savez, ça fait à peu près 6 ans ou 7 ans qu'on ne savait plus qu'il était coureur, donc c'est quand même difficile de le mettre parmi les favoris.
Très bien. Benji, l'étape de demain, donc troisième étape de ce Tour de France entre Ajaccio et Calvi, 145 km, et encore une fois, un profil très accidenté avec des côtes de 4e, deux côtes de 3e catégorie. Et puis un col de deuxième catégorie à quelques kilomètres de l'arrivée à Calvi. Quelles sont les cotes et quels sont les favoris pour cette étape?
Alors le grand favori c'est Peter Sagan, 4,60. Derrière on retrouve Alejandro Valverde à 8, SG Dahl à 15, Thomas Vauclair à 18 et le chouchou de Cyril, on va voir s'il le reprend aujourd'hui, Boas Sonnagen qui lui est à 22, tout comme Philippe Gilbert, Joaquin Rodriguez et Tony Galopin.
Alors, à tout seigneur, tout honneur.
Oui, mais moi, ça y est, ma décision est prise depuis déjà. Peter avant Sagan. Benji, non, du tout. Valverde.
Alejandro Valverde, si tu le vois briller demain.
Bah écoute, oui, je le vois bien briller devant, ouais, demain, ouais. Ouais. Parce que, ouais, si y a la guerre quand même dans les trois derniers kilomètres, sachant que Sagan c'est quand même le meilleur sprinter au cas où si Valverde et les autres arrivent, je pense qu'ils vont vouloir l'isoler, le faire sauter dans la dernière ascension, Sagan. Donc Valverde, je suis sûr que demain il va tenter un coup dans la dernière ascension. Donc je le vois bien vainqueur, oui.
Tu le vois bien vainqueur, d'accord. Il faut rappeler quand même que la dernière ascension sera costaud. Hein. 3 km 300 à 8,1% de moyenne.
Elle fait 2 km de plus qu'aujourd'hui déjà.
Le sommet se situe à 13 km de l'arrivée. Ouais. C'est ensuite quasiment en descente jusqu'à Calvi. Ouais. Donc on ne sait jamais, peut-être un bon descendeur. Cyril, qu'est-ce que tu en dis?
Bien, lorsqu'on regarde l'étape de demain, c'est l'étape aux 1000 virages. Donc il faudra déjà éviter de tomber. C'est-à-dire que ça fait un virage tous les 145 mètres, c'est à peu près ça. Alors moi je vais rester quand même. Je vais abandonner Boas Sonnagen pour revenir sur Peter Sagan parce qu'il m'a semblé que Boas Sonnagen aujourd'hui manque un tout petit peu de puissance dans l'esprit. Il faut peut-être attendre une petite semaine avant de le voir arriver. Mm-hmm. Donc Peter Sagan
il passe ce petit col de deuxième catégorie.
Oh, il a gagné l'étape de montagne, la troisième étape de montagne au Tour de Suisse.
Ouais, évidemment. Et puis bon, aujourd'hui il était dans le coup, hein. On rappelle qu'il termine deuxième, qu'il était un petit peu râpé de tous les côtés, mais comme il le disait hier soir, l'incroyable Hulk se relève toujours de ses blessures et on a vu qu'il avait bien récupéré de ses forces. Donc Peter Sagan pour Cyril Guimard. Benji, on va te demander ton avis, hein.
Oui, je vais jouer Rodriguez cote de 28.
Rodriguez,
c'est pas mal, ouais. Rodriguez, ça c'est pas mal aussi, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, bien joué.
Voilà. Alors, j'ai le pari de Thierry Bourguignon qui n'est pas avec nous ce soir car il est rentré sur le continent. Il annonce Thomas Vauclair vainqueur demain. Non, Lucho, tu fais la tête.
Non, non,
ça te dit rien. C'est un bon descendeur, Thomas. Hein,
oui, c'est vrai que c'est un bon descendeur. Mais s'il y a la guerre dans la dernière ascension, s'il est avec les meilleurs, je ne sais pas s'il pourra faire la différence.
Ouais. Ok, et ben moi je vais jouer comme le druide parce que je sens bien le druide sur le coup. Et puis aujourd'hui, Peter Sagan m'a rassuré.
Et Benji,
oui. Il a été.
Si Cyril et Christophe gagnent demain, je risque rien.
Non, t'es tranquille.
Il est tranquille, moyen quand même, là, si tu veux.
Non, mais bon,
hein, quand il voit une échappée
comme
ça,
si jamais Valverde gagne, là par contre, je creuse l'écart. Hein.
Si, là tu seras irrattrapable, complètement irrattrapable. Alors, les leaders, en tous les cas, s'inquiètent hein, de cette étape. Cyril, tu disais c'est l'étape aux 1000 virages. C'est très, très sinueux. Il y a vraiment un beau terrain de jeu pour tous ceux qui voudront jouer avec ce terrain, justement. Hein.
C'est un très beau terrain de jeu, hein, je le disais, donc avec des lignes droites de 145 mètres. Bon, il y a sûrement moins de 1000 virages. Il n'y a que 30 km où il n'y a pas soit d'ascension, soit de descente entre le 20e et le 50e kilomètre, parce qu'on attaque déjà par une première ascension au kilomètre 12. Et ensuite, eh bien, on est dans un virage à droite, dans un virage à gauche, dans une bosse ou dans une descente.
D'accord, très bien. On va se régaler demain et vraiment le terrain est propice aux attaques de tout genre. On verra ce qu'il en est. Tiens, Jean-François Pécheux, directeur de l'épreuve, il est venu reconnaître cette étape et il en a l'eau à la bouche de cette étape, notre ami Jeff. On l'écoute.
Je pense que les coureurs sont tous venus voir cette étape et ils ont tous peur. Tout le monde craint cette étape, pas par la difficulté même de l'étape, mais par ce paysage grandiose et ses montées, ses descentes, ses routes escarpées. Et les coureurs vont jamais se voir, il n'y a pas de ligne droite. C'est vrai que le tour peut se perdre en Corse pour certains leaders et c'est l'étape qui fait peur justement. 198 coureurs qui vont tous vouloir être devant, ça risque de frotter un petit peu au portillon et il y a ceux qui seront que de peloton.
Voilà, Jean-François Pécheux qui nous donne l'eau à la bouche pour cette étape de demain, troisième étape du Tour de France. Donc, entre Ajaccio et Calvi. Alors, on va lui demander son avis, puisque lui, c'est le régional étape, même si aujourd'hui, il est à Orchi. François Giuseppi, ça va partir dans tous les sens demain, entre Ajaccio et Calvi, François.
Bah, ça grimpe tout de suite, hein, surtout mine de rien. Vous sortez d'Ajaccio, vous arrivez dans la petite banlieue d'Ajaccio, Mezzavia, et tout de suite, vous prenez un grand virage sur la gauche, et puis ça monte progressivement. Sagone, Cargès, les Calanques de Piane, et ensuite, et bah, c'est de plus en plus escarpé, et Cyril a raison. Il n'y a pas 1000 virages, mais il y en a 980.
15. Très bien. François, en attendant, toi tu n'es pas en Corse, tu viendras.
Non, je suis à l'opposé.
Tu es à Orchi, mais belle ambiance là aussi. Hein.
Ouais, grosse ambiance.
Mais grosse ambiance.
Exactement. Dans 11 minutes maintenant, le coup d'envoi de cette grande finale de l'Eurobasket féminin entre la France, les braqueuses, victorieuses en demi-finale de la Turquie et l'Espagne qui a fait forte impression depuis le début de l'Euro. Les deux équipes sont invaincues, mais l'Espagne a de la marge en quart de finale, avait de la marge également en demi-finale. On espère surtout qu'il y aura la plus petite démarche peut-être, mais pour l'équipe de France après 1h40 d'efforts intenses dans moins de 10 minutes maintenant. Le coup d'envoi avec Ivano Balerini et Rodolphe Massé en intégralité sur RMC. Dans quelques instants, l'avant-match, les hymnes pour le coup d'envoi de cette grande finale sur RMC, la radio officielle de cette équipe de France. Sous les yeux de Boris Diaw, notamment le capitaine de l'équipe de France masculine qui a fait le déplacement de San Antonio en ayant fait un crochet par la Réunion. On vous explique tout ça dans un instant sur RMC.